On va avoir une demi-heure pour échanger avec Jean-Louis et Denis, qui sont les représentants de Génération Future avec nous. Je rappelle juste que le film est disponible sur YouTube en accès libre. Donc, si vous voulez le voir ou le partager avec des personnes qui peuvent être intéressées. Quelques mots rapidement sur Génération Future pour les personnes qui ne connaissent pas. C'est du coup une association qui a pour objectif de protéger les générations futures des pesticides. C'est une asso de défense de l'environnement qui a été agréée par le ministère de l'écologie depuis 2008 et reconnue d'intérêt général. Elle a été fondée en 1996 par un ingénieur agronome et un enseignant. Et du coup, ses moyens d'action sont les enquêtes, des colloques, des recours juridiques et des campagnes de sensibilisation. Alors, je pense qu'une question que tout le monde se pose à la suite de ce film et qu'on a envie de développer avec vous, c'est où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Est-ce que le fameux projet de loi du député a pu aboutir ? Est-ce que les dernières analyses dans le Gard font avancer les choses ? Voilà, je vous laisse développer ce point, peut-être Denis ?
Merci. Oui, alors, en préalable, j'avais une question. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui n'ont pas entendu parler des PFAS ? Enfin, avant la vision du film. Donc, sur la loi, hein, c'était ça la première...
Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Alors, et depuis le film, éventuellement, qui date de mars, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé ?
En mars, donc, en avril, elle a été présentée donc, à l'Assemblée nationale. Donc, elle a été validée à la majorité, hein, à l'unanimité, à l'Assemblée. Donc, après, il y a eu un retour au Sénat qui a été du même acabit, hein, l'unanimité. Mais entre-temps, donc, vous savez qu'il y a eu une dissolution. Donc, là, on en est un peu au point mort, parce qu'il y a une session parlementaire d'automne, et le problème, c'est que dans les débats, cette loi ne sera pas examinée, ça serait repoussé à l'année prochaine, en 2025. Donc décidément, après bon, ben, y a d'autres lois qui sont jugées un peu plus urgentes par certains, mais là, on sort de nos gonds, c'est pas possible. C'est quelque chose qui était adopté, voilà, c'est très simple, hein, il n'y a pas besoin de débats énormes, ça a déjà été validé, c'est à peu près la même assemblée, donc... Voilà, ça aurait pu passer directement. Et comme ça, les mesures ont été mises en place quand même plus rapidement. Alors que là, bon, on est dans l'attente. Et la deuxième question, c'était sur Salindre. Donc, Salindre, c'est une entreprise, c'est Solvay, en fait, hein, qui produit des PFAS. Alors, c'est un PFAS, le TFA. C'est l'acide trifluoroacétique. Donc, c'est bien un PFAS. Si vous voulez, le PFAS, comme ça a été dit, c'est une agrégation d'atomes de fluor et de carbone, hein. Donc le TFA, lui, il a deux atomes de carbone, trois atomes de fluor, un atome d'oxygène et un d'hydroxyde. Donc c'est une toute petite structure. Et là, si vous voulez, Solvay, depuis des décennies, il rejette un maximum de ces particules dans l'eau et ça va jusqu'à 7200 nanogrammes par litre d'eau à l'exutoire de l'usine. Hein. Donc il y en a encore, il y en a dans toutes les rivières qui sont attenantes. Et voilà, donc il y a eu un mouvement, c'est Génération Future qui a fait les analyses en fait, hein. C'est une révélation de Génération Future, et bon, bah, quelques semaines après ces révélations, le directeur de l'usine a annoncé qu'il fermait l'unité de production du TFA. Alors, ce qu'on a su, c'est que préalablement, c'était déjà prévu quand même la fermeture du site, hein, parce que... Ils sentent quand même qu'à un moment donné, il faudrait dépolluer, il faudrait payer. Donc là, bon, on ferme l'usine et puis on va en Chine. Quoi.
Ça pose la question, du coup, quelle est l'obligation de dépolluer de ces producteurs de PFAS aujourd'hui en France ?
Alors, l'obligation, pour l'instant, il n'y en a pas. Et c'est pas comme aux États-Unis ou dans d'autres pays où les entreprises sont condamnées, hein, comme vous l'avez vu dans le film. 3M, là, c'est 10 milliards d'euros, enfin, c'est réparti sur 10 ans. Hein. Pour dépolluer les rivières qu'ils ont polluées. Hein. Donc nous, là, actuellement en France, il n'y a qu'un site qui fait l'objet d'une indemnisation de l'industriel. Hein. C'est le site de Rumilly, en fait, de la ville de Rumilly. Parce que sa nappe phréatique, elle était complètement polluée. Là, c'était une eau qui n'était pas consommable. Donc, les autorités publiques ont pris quand même des décisions, et il n'y avait rien d'autre à faire que d'installer une centrale de filtration, en fait. Alors donc, ça a été partagé entre l'État, le département, qu'on a pris beaucoup, et l'agglomération de Rumilly, et pour une valeur de 1 100 000 euros. Les centrales à charbon actif. Alors après, l'entreprise, c'est Tefal, là-bas, c'est les poêles. Donc ils se sont engagés sur un an à entretenir cette unité de filtration. Donc là, c'est des charbons actifs pour une valeur de 350 000 euros. Voilà.
D'accord. Du coup, quand on est citoyen et qu'on s'inquiète ou qu'on pense que notre eau est peut-être polluée, comme là dans le Gard, qu'est-ce qu'on a comme recours pour agir ?
Eh bien, la solution, c'est de rassembler les gens, d'unir les gens, les citoyens sur le terrain, et puis de se regrouper ensemble, en sachant que les politiques, ils sont quand même quelque peu impuissants pour le moment, enfin, si ce n'est qu'on a quand même fait avancer, d'ailleurs récemment, les choses au niveau de... On a fait presque l'unanimité, c'est très important. Mais il faut se battre ensemble, il faut communiquer sans arrêt, c'est ce qu'on fait actuellement, on communique pour montrer exactement les enjeux et les dangers. Et donc ça, c'est un gros travail, bon, nous, de communication. Et puis dans le film, on voit Pauline aussi, qui fait un gros travail aussi d'analyse, parce qu'elle était avant dans la chimie, hein, elle était dans ce travail-là, elle a fait des études spécifiques, donc elle a basculé vers l'associatif, pour dénoncer ce qu'elle connaissait très bien. Donc nous, à Génération Future, on a des experts indépendants, et donc on travaille là-dessus, bon, pour essayer d'arriver à vraiment montrer les dangers. Et donc, dans ce film, on a rencontré toutes ces personnes extraordinaires, la journaliste du Monde, Stéphane Aurel. On a rencontré aussi la fille de FR3, Rhône-Alpes, Émilie Rousseau. Et puis voilà, on a rencontré des personnes extraordinaires, et c'est comme ça que les citoyens entre eux, ils doivent tous se connecter les uns les autres, c'est ce qu'on essaye de faire. On essaye de dynamiser les associations et de les relier, de les coordonner, et c'est comme ça qu'on peut arriver à s'opposer, parce qu'on a une force énorme, ils ont une force énorme, les lobbyistes, donc c'est très fort, et donc il faut se battre contre ça. Et donc il y a eu un film, Goliath d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez vu, Goliath, donc il montrait bien exactement cette dynamique malheureuse des grandes sociétés qui ont des intérêts financiers énormes. Et là-dessus, les politiques, eh bien, ils sont achetés, il y en a certains qui sont achetés, il y en a qui lâchent prise. Et donc c'est aux citoyens de se mobiliser tous ensemble. C'est le seul moyen d'arriver à limiter la casse et puis essayer de déjà faire de la prévention, et ça c'est le plus important. En sachant que ces entreprises, elles font de l'auto-évaluation. Et c'est validé par de nombreux politiques qui sont en place, Et donc, ces auto-évaluations permettent à ces entreprises de faire ce qu'elles veulent. C'est ça qui est grave. Voilà.
Oui, je me permets de rebondir, parce que on parlait de solutions éventuellement pour filtrer l'eau. Il y en a, et là, c'est le soin individuel. Alors, par exemple, là, sur notre région... les citoyens, c'est les mouvements, comme on disait, hein, c'est les citoyens organisés, des collectifs, qui ont demandé ardemment à leur mairie de prendre des mesures pour filtrer l'eau des écoles, par exemple, des lycées, enfin voilà. Donc il y en a quelques-unes qui ont donc investi dans des filtres à charbon. Par contre, après, individuellement, là, pour aujourd'hui, la solution pour le citoyen, pour agir urgemment, c'est d'investir dans un filtre. Alors il y a plusieurs méthodes. Filtre à charbon actif, comme je vous parlais de Rumilly, et puis il y a osmose inverse.
Merci, je vais passer le micro à une personne du public qui a une question.
J'ai fait un diplôme en qualité et traitement de l'eau, donc j'ai pu voir un petit peu le traitement des PFAS notamment. Donc en fait, ça m'étonne un peu qu'ils proposent uniquement le charbon actif ou l'osmose inverse, étant donné qu'il faut... En fait, c'est un cumul de plusieurs traitements. On ne peut pas traiter uniquement avec un simple charbon actif. Ou un simple... Il faut d'abord casser les PFAS pour pouvoir après les absorber sur les charbons actifs ou avec l'osmose inverse, ou etc. Donc ça me paraît un peu faible et un peu étonnant.
Alors,
Je suis désolée.
Non mais bien sûr, mais vous avez raison. Et ce qu'on sait, c'est que ça ne filtre pas la totalité non plus, à part l'osmose inverse, qui est plus a priori. Mais elle déminéralise aussi, donc après ça... Oui. D'autres problèmes.
Oui, Par contre, il faut remodifier l'eau, rapporter...
Rapporter des minéraux qui manquent. Sinon, il y a aussi une nouvelle... un nouveau process, en fait, qui est en train d'être mis en place là, justement à Lyon par une entreprise. Mais là, je ne peux pas vous en dire plus parce que c'est très récent et on n'a pas pu les rencontrer.
Bonjour, je voulais juste savoir par rapport à la zéolite. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un, comme le charbon en fait, a des propriétés de détoxination des métaux lourds. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui préconisent de même le prendre en interne pour détoxiner les métaux lourds. Mais alors pour les PFAS, est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'on peut considérer que ça a une action?
Je crains que non. Enfin, ça en aura peut-être une, mais minimale. Parce que c'est des particules très fines qui sont pas captables, comme par exemple les métaux lourds, qu'on peut capter avec un simple filtre en porcelaine, même... Ça a été utilisé en Angleterre et c'est des filtres qui existent encore en France, hein, qui sont couplés avec des filtres à charbon aussi. Donc là, ça retient bien les métaux lourds, mais PFAS.
Je pense surtout c'est que bon, ça, ces filtres, c'est important sur les zones vraiment super tendues, comme sur Saint-Saint-Dezon, le sud de Lyon. Et ça, il faut mettre des filtres, c'est sûr, c'est la prévention. Après, il faut avoir un état des lieux complet parce que on va encore faire des découvertes certainement dans le nord de Lyon ou dans, même peut-être ici. On sait pas. Il y a pas de transparence aucune. Comme je vous l'ai dit, ils font de l'auto-évaluation. Donc, on va avoir des surprises. Donc, il faut faire à tout prix inciter tout le monde à faire analyser les eaux ou les services compétents et faire en sorte que les politiques en place prennent leurs responsabilités. Ça, c'est essentiel. Voilà, pour l'intérêt général.
Je voudrais ajouter une précision par rapport au traitement de l'eau et notamment par osmose inverse. En fait, c'est une histoire de taille de molécules qu'il faut arrêter. Les charbons actifs, eux, arrêtent les matières organiques, principalement. Le charbon actif, on lui ajoute un certain nombre de métaux, etc., ils arrivent à collecter aussi des métaux lourds. Mais la solution la plus intéressante et la plus performante, c'est carrément une filtration à 5 microns, 1 micron, ensuite charbon actif, et puis ensuite l'osmose inverse. L'osmose inverse, en théorie, elle laisse passer que la molécule d'eau qui fait, je crois, un nanomètre. Voilà. Et tout ce qui est plus gros, comme les matières organiques, comme les virus, comme les bactéries, etc., ne passe pas, puisque les molécules sont grosses. J'imagine que la chaîne que vous présentez des PFAS, c'est une molécule qui est très grosse, elle ne passe pas. Aussi, l'osmose inverse permet d'arrêter aussi les nitrates. Donc ça aussi, c'est intéressant, on n'en parle pas beaucoup, mais je veux dire que les nitrates sont aussi un sacré problème pour la santé, puisqu'elles altèrent le transport de l'oxygène avec les globules rouges, voilà, dans le corps. Donc, si vous voulez... traiter l'eau, votre eau, on peut traiter avec un module d'osmose inverse complet avec ces filtres, et pour boire et pour faire la cuisine, c'est pour l'instant l'osmose inverse qui est la plus performante pour traiter ça, à mon sens.
Oui, merci pour votre intervention qui est précieuse.
Donc, que tout le monde s'oriente sur l'osmose inverse. C'est vrai qu'il y a des vendeurs qui gagnent énormément d'argent sur ces choses-là, mais il y a aussi des prix. Intéressez-vous au fonctionnement de l'osmose inverse, et c'est un groupe qu'il faut installer, et on peut par jour facilement fabriquer entre 100 et 150 litres d'eau osmosée par jour, donc c'est déjà pas mal. Bon, on parlait de la minéralité. C'est vrai que la minéralisation, ça fait de l'eau pratiquement pure, mais pour la reminéraliser, je veux dire, ben il faut manger des choses un petit peu minérales, ou alors on peut aussi tremper, faire passer cette eau sur un genre de pierre aseptisée, je veux dire, genre calcaire, etc. Mais enfin, là aussi, il faut se renseigner, mais tout ça, ça existe, et ça serait beaucoup mieux que de boire directement l'eau du robinet qui a ses traces de polluants chimiques, etc.
Alors, un petit rappel, juste la future norme européenne pour l'eau potable, en termes de quantité de PFAS, ça va être limité à 100 nanogrammes par litre, enfin, norme européenne. Il y a des pays qui ont anticipé, par exemple le Danemark, qui est beaucoup plus rigoureux sur ces quantités.
Donc ils vont vivre plus longtemps que nous, alors?
Ben, c'est qu'ils ont beaucoup de points de pollution.
Oui, c'est vrai que là, c'est une réflexion à court terme, c'est-à-dire qu'il faut se protéger immédiatement avec des filtres. Après, il faut avoir une vision aussi à moyen et long terme, parce qu'il faut agir, parce qu'on ne peut pas toujours filtrer l'eau, et puis il faut essayer d'assainir l'eau. Et ça, c'est le travail quand même de moyen terme et long terme. Et il faut que tout le monde prenne ses responsabilités par rapport à ces problématiques, parce que c'est inadmissible que nos eaux soient tous polluées. Donc il faut avancer vers des lois vraiment plus précises, plus efficientes. Et puis il faut que nos services publics de l'eau puissent agir, et puis qu'on peut-être on se donne les moyens d'avoir de l'eau propre. Ça, c'est important. Et puis que justement qu'on mette la pression sur les entreprises, mais c'est vrai que le pouvoir des politiques est relativement réduit, surtout avec les lobbyistes et tout. Et donc c'est vraiment ça le problème. Il faut vraiment se battre ensemble, les citoyens. Il faut qu'il y ait une mobilisation citoyenne très forte, ce que disait le reportage d'ailleurs, pour arriver à s'en sortir. On ne va pas mettre des filtres sans arrêt. Il faudra bien arriver à réagir sur le fond du problème, sur le fond. Voilà, ça c'est important.
Oui, je suis d'accord avec toi, Jean-Louis. On ne peut pas individualiser les solutions alors que le problème, en fait, il vient d'entreprises privées qui ont énormément de moyens. Et en fait, c'est un problème politique où il faut prendre le problème à la source et collectivement, parce qu'on ne peut pas demander à chacun de s'adapter à la pollution de l'environnement qui est le fait de quelques entreprises seulement.
Oui, je voulais savoir si à Lyon, comme le maire est écolo, est-ce qu'il a quand même peut-être un peu plus... des moyens d'action ou d'envie, ou je ne sais pas, parce qu'il y a eu des entreprises qui ont été condamnées, il me semble, sur Lyon pour pollution, peut-être pas au PFAS, mais pour d'autres polluants, non ?
Oui, ça fait quelques années. Hein, donc, dans les années 70, il y avait un gros scandale de pollution, c'était l'acroléine à l'époque. Comme c'était évoqué par une personne là, de Pierre Bénite, son mari est décédé. Et donc là, il y a eu une grosse condamnation. Bah, c'était Péchine et Ugel-Gulman, c'était au même endroit, bah, quasiment la même usine, puisqu'après, ça évolue, ça change de nom, mais c'est la même chose. Bon, ils sont passés au PFAS. Alors après, pour revenir à votre question sur le maire de Lyon, bah, c'est comme tout le monde, en fait. Ils sont tombés un peu des nues quand cette histoire a été médiatisée. Donc tout de suite, il fallait trouver des solutions. Alors... C'est le sud de la métropole, donc plutôt la région de Givors, là où les nappes phréatiques sont en aval d'Arkema, là, qui ont été polluées, en fait. Mais il y a une grosse nappe au nord, là, Crépus-Charmy. Donc, ils ont décidé, parce que c'était une mesure d'urgence, d'essayer de faire un raccordement sur la nappe du bas pour diluer. C'est un peu limite, mais... C'est une solution compliquée. Comment faire? C'est infiltrable. Une nappe phréatique qui est polluée comme celle de Ternay-Grigny, c'est pas possible. Donc après, voilà, quelle solution on fait? Ben, pour l'instant, on dit nous, on n'a pas les moyens. On n'a pas de solution. Et puis après, voilà, pour la réponse de l'agglomération, là, ça touche. Donc c'est le sud qui est le plus touché que le nord. Quoique même dans les monts du Lyonnais, si vous voulez, avec les cas raccordements de nappes, enfin, de puits, eh ben, il y a des communes qui sont aussi touchées. On se demande comment, mais c'est ça.
Donc, ce qu'il y a, c'est que bon, l'acroline, je sais pas, vous savez à quoi elle servait, l'acroline, c'est à gonfler les poulets, enfin, des poulets pleins, bien gonflés, avec de l'eau et tout. Et les poulets, on donnait de l'acroline aux poulets pour faire de la quantité, et puis des produits plutôt moins, des poulets un petit peu, hein, bon, voilà. D'autre part, il se trouve que c'est des entreprises. Moi, j'ai suivi un petit peu dans le cadre du reportage de Boudot, j'ai suivi un peu comment on a monté le reportage et tout. J'ai rencontré les gens des CHSCT, j'ai rencontré du monde. Toutes les gens qu'on voit ici, on les a rencontrés tous, des personnes extraordinaires qui sont battues. Et donc, c'est vachement compliqué parce que ça a changé sans arrêt la société, elle a changé de nom. Quand on est en difficulté, c'est la société mère. Mais on va mettre une filiale, et la filiale, on ne peut pas l'attaquer. Donc ils sont tranquilles. Donc ils font juridiquement parlant, ils rebondissent toujours. Et donc ça, ils ont des jeux incroyables pour essayer d'échapper à la... éviter de rendre des comptes, et ils échappent toujours. Bon, voilà.
Et donc le politique là-dedans, eh ben, il est à la rue, quoi. Il essaye, mais les écologistes ont fait des choses récemment sur la métropole. Ils ont mis en place des choses intéressantes. Mais il faut toujours se battre sans arrêt en permanence et il faut beaucoup d'énergie et de volonté politique. Et ça, c'est très important.
Oui, je me posais la question par rapport à la différence entre l'industrie de production et l'industrie pharmaceutique. Je sais que quand il y a un médicament qui est déclaré nocif pour la santé, il est immédiatement retiré, peut-être parce qu'il y a une réglementation différente. Alors qu'avec les industriels, bah, c'est leur stratégie du repousser pour mieux gagner. Et je ne sais pas exactement comment on peut agir pour lisser un petit peu ces différences.
Sur le fond, ce n'est pas très différent, c'est l'industrie chimique. Donc pour le moment, on a un scandale au Sud. Mais il y a des industries chimiques, des industries pharmaceutiques, entre guillemets, très connues dans le Nord. Et c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions sur les droits qu'ils ont, même sur les médicaments et tout. Tout n'est pas très net. Et donc, par rapport aux médicaments en tant que tels, on n'a pas tous les éléments précis là, sur les médicaments, parce qu'il y a des tas de... Il y a des tas de rebondissements. Après, sur les installations, c'est la chimie. Donc la chimie, il y a des impacts sur les sols. Et puis, il n'y a pas d'évaluation réelle. C'est ça le problème. Et il n'y a pas d'évaluation réelle aussi sur les effets pervers peut-être des médicaments. Et c'est ça, c'est ce qui manque. C'est des évaluations indépendantes pour pouvoir juger l'efficacité des médicaments, l'environnement et tout. On n'a pas d'évaluation. Ils font de l'auto-évaluation, donc c'est ça le problème. C'est que les politiques ne sont pas assez forts pour mieux contrôler l'intérêt général et mieux appliquer l'intérêt général surtout. Voilà. C'est ça le problème.
Et du coup, tu me disais aussi tout à l'heure, Jean-Louis, que vous avez fait des analyses dans la Loire.
Alors là, on a fait des analyses très récemment dans la Loire en amont... en amont en remontant sur la Haute-Loire. Donc le problème, c'est que l'eau partout, elle est pas pure, hein, ça c'est sûr. Il y a toujours des reliquats de. Et le problème, c'est que par exemple la Haute-Loire, il y a beaucoup de pesticides. Et le problème, c'est que les pesticides, il y a des liens avec les PFAS, parce que les PFAS, permettent de faire perdurer les pesticides dans les champs, parce que ça les protège, ça les imperméabilise, ça les maintient plus efficaces longtemps. Et donc là, c'est un problème aussi, parce que ces PFAS, il y en a partout. Et donc, c'est tout des produits qui sont issus quand même du pétrole, c'est-à-dire des polymères. Au départ, c'est le polymère. On travaille les polymères. Après, on en fait la petite tambouille chimique. Après, moi, je ne suis pas chimiste, donc comme Pauline Servant qui est passée là, et elle est l'experte dans notre association. Mais c'est vrai que c'est ça, c'est le problème, c'est que c'est une usine à gaz, quoi. C'est une usine à gaz. Il y a Secret Toxique aussi qui a fait un bouquin là-dessus, sur les produits chimiques et tout. Ça part dans tous les sens. On n'arrive pas à avoir une lisibilité complète sur les compositions des produits. Et les pesticides qui sont drainés sur les terrains en Haute-Loire descendent dans la Loire. Et descendent dans la Loire, c'est des sortes de pesticides transformés, métabolites. Ces métabolites, après, elles se transforment en TFA. TFA, c'est une sorte de dérivé des perfluorés qui polluent la Loire. Et donc, il y a des taux mineurs, certes. Il n'y a pas besoin de mettre de filtre, mais il y en a pratiquement partout, même dans la Loire, ici à côté. Donc, c'est pollué de partout. Mais à dose, je dirais pas homéopathique, c'est pas le bon. Mais je veux dire, c'est comme ça, donc il y en a partout. Donc il y a un gros travail à faire de fond. Il faut que tout le monde se sente concerné. Pas que les gens à côté de Pierre Bénit ou dans la VRV de Lyon. Ici à Saint-Étienne, on est concerné parce qu'il y a des effets aussi marginaux, mais qui fait que sur le long terme, c'est assez grave.
Oui, pour insister un peu sur le TFA, je vais vous raconter une anecdote. Donc nous, Génération Future, on travaille avec un consortium d'associations d'ONG européennes. On l'avait rappelé peut-être tout à l'heure. Donc par ce biais, on arrive à avoir des informations un peu sur les paroles des lobbyistes qui soufflent à l'oreille des députés européens. Et voilà, sur le TFA, alors leur grande...
TFA qui s'écrit comme...
TFA, l'acide trifluoroacétique. Donc, sur ce produit qui est un tout petit PFA, je vous l'avais dit tout à l'heure,
Les scientifiques de l'industrie chimique, ils nous disent, oh, mais attendez, c'est pas grave, parce qu'on s'est produit dans la nature, les cheminées océaniques, les volcans, ils en balancent de partout. Alors que nos toxicologues, et si on regarde une littérature scientifique un peu plus sérieuse, comme Pauline l'a dit tout à l'heure, ça c'est des molécules anthropiques. Et un atome de carbone et un atome de fluor dans la nature, ça se marie pas, c'est pas possible. Alors voilà, voilà ce que certains députés entendent. Donc après, si, ça minimise un peu le risque de ces produits-là. Et puis bon, ça a quand même des relents un peu de mensonges, quoi. Il y en a qui se font avoir.
C'est un sujet tellement complexe que comme on ne peut pas maîtriser, on fait un peu confiance soit aux scientifiques, soit aux industriels qui sont en face de nous pour être connaisseurs sur le sujet, c'est ça ?
Moi j'ai juste une question, est-ce qu'il y a un intérêt à potabiliser de l'eau de pluie, si on a la possibilité de le faire chez soi, ou d'un puits, ou d'un forage, qui pourrait être plus intéressant et moins compliqué que dépolluer de l'eau de la ville ?
Alors peut-être qu'en campagne, dans les zones où bon, il n'y a pas trop de pulvérisation de produits chimiques, si vous avez un puits, vous pouvez le faire, hein, c'est possible. Il faut quand même une certaine filtration de l'eau. Mais par exemple, pour quelqu'un de Pierre Bénite qui voudrait forer un puits, alors là, les jardins, déjà, c'est interdit de manger les légumes, les œufs, comme ça a été évoqué. Enfin bref, c'est voilà, ça dépend de l'endroit, je pense. Hein. C'est possible, hein, mais bon, les gens le font. Hein.
C'est vrai que c'est une solution peut-être individuelle intéressante. Le problème, c'est qu'il faut trouver des solutions collectives. Et ça, c'est important. Il faut renforcer les collectifs, renforcer les solidarités, en sachant que la pluie du ciel est aussi un peu polluée parce qu'elle vient de je ne sais pas d'où. Et puis, il y a des moments, elle n'est pas nette, hein, vous avez bien vu. Donc, même à titre individuel, je pense que c'est vraiment pas gagné d'avoir des eaux propres. Hein, ça, c'est pas gagné du tout. Donc, je pense qu'il faut avoir une confiance entre nous, avoir des énergies collectives qui nous permettent de se battre contre des géants de la chimie. Un système, il faut reconnaître, hyper prédateur, parce que ces grandes multinationales font la pluie et le beau temps. C'est elles qui décident de beaucoup de choses. Et dans l'affaire, eh bien, la démocratie, elle est fragile, parce qu'on nomme des politiques qui sont dans l'impuissance de gérer les problèmes. Enfin, je parle au niveau global. Hein. Il y a une sorte d'impuissance. Et il y a un moment donné, il faudra prendre des décisions collectives pour dire voilà, stop, on arrête tout ça, et avoir une conscience aussi politique, vraiment réelle, des enjeux. Et là on pourra faire les choses ensemble et se battre ensemble pour arriver à faire évoluer les choses favorablement dans l'intérêt général, et pas dans l'intérêt d'une minorité au niveau planétaire, ça marche comme ça, qui fait la pluie et le beau temps, c'est le cas de le dire.
Merci Jean-Louis et Denis pour toutes ces compléments d'information au film dont je rappelle qu'il est disponible sur YouTube en accès libre.
Merci à tous d'être venus. Merci.